Radio Okapi. Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Quatre personnes ont péri dans deux incendies survenus dans la commune de Kadutu à Bukavu. On compte aussi une cinquantaine de maisons parties en fumée. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore élucidée. Psychose au sein des élèves des écoles situées à l'ouest de Goma. Ils vivent au rythme des détonations d'armes lourdes, ce qui perturbe les cours et affecte leur bien-être psychologique. Rosalie Zawadi a visité l'école primaire Lac Vert, son constat dans ce journal. Et puis, l'invité de ce midi, Stéphane Banza, représentant de l'ONG Action pour la protection de la nature et des peuples autochtones du Katanga, il nous parle des avantages du projet dénommé « Restauration des écosystèmes dégradés dans les provinces du Kwango, au Katanga et Lualaba ». Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Bukavu, au sud Kivu. Deux incendies se sont déclarés dans la commune de Kadutu la nuit dernière. Bilan, quatre personnes mortes et des dégâts matériels importants, notamment des maisons réduites en cendres. Récit des faits avec Jean Kassami.
Les incendies se sont produits la même nuit dans deux quartiers populaires différents de la commune de Kadutu, Nyamugo et Nkafu. En Kafu, il y a eu quatre morts et deux maisons calcinées, tandis que à Nyamugo, la société civile de la commune rapporte une cinquantaine de maisons. Hippocrate Maroumé, son président.
Il y a une équipe qui est sur place pour maintenant identifier les responsables de ménage. Et après l'identification de toutes les familles victimes, on peut avoir vraiment un vrai bilan définitif. La protection civile, elle n'existe que de nom. Donc, à chaque moment où il y a un incendie, on voit maintenant l'équipe déployer les agents sur le terrain pour ne fût-ce qu'identifier les familles victimes. Et puis, rien d'autre n'est fait par rapport à ce que nous, on attend de ces services. La fois passée, l'honorable Batilukwebo avait doté des véhicules anti-incendie aux trois communes de la ville de Bukavu, y compris la mairie. Et il avait même avancé le paiement de 6 mois de personnel pour qu'en cas d'incendie, ce véhicule puisse servir. Malheureusement, la population continue à souffrir.
Toutes les quatre personnes mortes dans l'incendie sont d'une même famille, la mère et ses trois enfants. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Du côté du Tanganyika, plus de 179 000 personnes sont sans abri à travers la province. Leurs habitations sont envahies par les eaux du lac Tanganyika, occasionnant des graves inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Moba, Muliro, Banono et autres. D'après l'association SOS Tanganyika qui alerte, toutes les infrastructures économiques et sociales de base de la province sont aujourd'hui sous les eaux. C'est le cas des ports de Kalemi et de Moba, du chemin de fer de la SNCC qui relie Kalemi à Nyunzu, Balo et Kongolo, ce qui va occasionner une crise économique profonde dans la province, en plus de la crise de l'habitat, s'indigne le coordonnateur de SOS Tanganyika. Albert Kisimba sollicite l'intervention du gouvernement central. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes en train de faire notre plaidoyer avec tous les sinistrés de cette belle province du Tanganyika, qui aujourd'hui compte plus de 179 000 personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de quoi vivre, qui ont laissé leurs souvenirs, parce que le Tanganyika a récupéré la partie du territoire qui part. Aujourd'hui, Muliro est inondé, Moba, Kalemi, Manono est inondé, et personne jusqu'à aujourd'hui ne vient au secours de cette population du Tanganyika qui pleure. C'est toute une vie quand nous avons perdu 30 à 42 morts. Que le gouvernement national prenne en charge cette province qui est en train de se mourir. L'économie du Tanganyika aujourd'hui est partie. Rendez-vous compte que Mobaport, Lumumba sur Kalemi, Lumumba sur Kongolo, la SNCC a perdu son espace vital parce que le rail, il est plein d'eau.
Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, les élèves des écoles situées à l'ouest de Goma vivent au rythme des détonations d'armes lourdes qui perturbent leurs cours et affectent leur bien-être psychologique. À l'école primaire Lac Vert, par exemple, qui accueille des enfants déplacés, les responsables scolaires se voient parfois contraints de renvoyer les élèves chez eux lorsque les tirs s'intensifient, compromettant ainsi la progression pédagogique. Rosalie Zawadi s'est rendue dans cette école. Voici son constat.
Comme vous pouvez l'entendre, les enfants qui étaient dans la cour s'écrient lorsqu'une bombe explose au loin. D'autres se recroquevillent, la peur visible sur leur visage, comme cette petite fille qui se précipite dans sa classe.
Lorsque les bombes tombent, je ne comprends plus ce que l'enseignant dit. Et s'il y a évaluation, je n'arrive pas à répondre. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui viennent de mourir. Je n'arrive pas à bien écrire.
L'enseignant Désiré Soussa, de la 4e année primaire, explique que ces bruits dispersent l'attention des élèves, nécessitant un temps considérable pour les ramener à la concentration sur les cours.
Lorsqu'il y a crépitement des armes lourdes, nous avons difficile d'étudier. Les bombes là nous dérangent, ça gêne les enfants et l'enseignant manque comment évoluer avec la matière. Ces bruits des bombes vraiment sont fréquents. Je peux solliciter auprès des autorités, de faire tout moyen possible, finir avec la guerre.
Lorsque les tirs ne cessent pas, l'école n'a d'autre choix que de renvoyer les enfants chez eux, espérant un lendemain plus calme, a dit le directeur de cette école. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Entre-temps, des échanges des tirs d'artillerie opposent à nouveau ce lundi l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23. C'est autour de la cité de Kanyabayonga, située à cheval entre la partie nord du territoire de Rutshuru et le sud de Lubero. Selon nos sources à Kanyabayonga, des tirs sporadiques de mortiers sont entendus par intermittence dans la région. Rien que dans la matinée de ce lundi, deux obus sont tombés sur Kanyabayonga. Rappelons que c'est depuis 15 jours que ces affrontements ont été déclenchés dans cette zone. Toutes nos sources note et confirme que l'armée régulière contient jusqu'ici les rebelles au-delà de Bulindi, c'est à un peu plus de 10 km de Kanyabayonga. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC condamne l'attaque des EDF ce week-end dans les localités de Masala, Maïli et Kémé dans le territoire de Beni. Selon le communiqué publié ce lundi par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres blessées. Le gouvernement promet la poursuite des opérations de traque de ces rebelles et d'assurer la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. Ces opérations de traque ont permis, selon le porte-parole du gouvernement, de neutraliser plusieurs rebelles et de libérer les otages civils. Parlons enseignement à présent. Parlons de ces étudiants de l'université de Kinshasa revenus au pays après avoir participé à la 3e édition du concours du procès fictif organisé le mois dernier par l'Académie de droit international de la Haye à la Cour pénale internationale. 42 universités de 17 pays francophones y ont pris part. L'équipe de la RDC, arrivée deuxième, a affronté en finale l'université Paris-Panthéon-Assas. Mais que retiennent-ils de leur passage? Quel message à leurs camarades étudiants? John Chibwabwa les a rencontrés. Voici son reportage.
Ils sont à quatre, Maxime Kitenge, Deborah Sabanga, Shekina Mujinga et Christopher Mpiana. Ils disent être fiers d'avoir redoré l'image de l'enseignement supérieur sur la scène internationale. Pour Christopher Mpiana, ceci est le résultat de beaucoup de préparation.
Toute compétition et celle à laquelle nous avons participé d'une telle envergure demande beaucoup de préparation.
Les choix des candidats dans l'une des facultés le plus peuplées de l'UNIKIN était un dilemme. Maxime Kitenge explique.
Plusieurs personnes étaient dans la course, mais ceux qui ont été retenus, ce sont ceux qui ont rédigé le meilleur mémoire.
Parmi les difficultés rencontrées, le retard dans l'obtention des visas, les logements et les financements. Deborah Sabanga a reçu le prix du meilleur orateur. Elle appelle les étudiants congolais à ne pas se sous-estimer.
Aux étudiants congolais, le message que je peux leur passer, c'est de ne tout simplement pas se sous-estimer. La science, elle est universelle. On lit les mêmes livres, on étudie les mêmes cours, surtout en droit international. C'est le même droit qui est enseigné dans le monde entier.
Pour le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté des droits, c'est un sentiment de satisfaction de voir ses étudiants réaliser une prestation reconnue sur la scène internationale. Ces étudiants ont été élevés au rang des ambassadeurs de l'UNIKIN.
Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, un climat de tension règne ce lundi entre l'ex-DEMIAP, service de renseignement militaire, et la direction générale des douanes et assises, DGDA, à Kassindi-Lubiria, cité frontalière de l'Ouganda, située à 90 km de la ville de Beni. À l'origine de la tension, l'arrestation depuis dimanche du responsable de la DGDA Kassindi et de son chargé de logistique par le service local de l'ex-DEMIAP. Les agents de la DGDA, appuyés par les membres de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane menacent d'aller en grève pour exiger leur libération. Récit des faits avec André Kitenge.
Des sources locales rapportent que le responsable et le chargé de logistique de la DGDA à Kassindi-Loubiria ont été arrêtés sur ordre du commandant local de l'ex-DEMIAP après avoir refusé d'octroyer à ce service militaire un bureau de travail dans le bâtiment administratif construit avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. À la DGDA, on juge d'arbitraire cette arrestation et l'on estime que l'ex-DEMIAP ne peut pas cohabiter dans un même bâtiment avec le service douanier. Les personnes arrêtées ont été transférées à Beni où elles sont en détention. Les agents de la DGDA Kassindi, appuyés par les commissionnaires en douane, exigent leur libération et menacent d'aller en grève. Ils dénoncent également ce qu'ils qualifient de tracasserie militaire au poste frontalier de Kassindi-Loubiria. Ils appellent à l'implication des FRDC et du gouvernement congolais pour mettre fin à cette situation. Tous les efforts pour joindre les responsables de l'ex-DEMIAP Kassindi se sont avérés sans succès. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental. L'Office des voiries et drainage OVD dénonce la détérioration des infrastructures construites il y a quelques mois en Mbujimayi. L'OVD pointe du doigt certains conducteurs d'être à la base de la destruction des trottoirs. L'OVD s'indigne aussi suite à l'utilisation des caniveaux pour l'évacuation des immondices par certaines familles. Esther Ndalafina, reportage.
L'Office des voiries et drainage a fait le constat sur l'avenue Mwanjadi dans la commune de la Kanchi où les trottoirs construits récemment ont été détruits par un camion. Cette pratique est constatée à plusieurs endroits d'après l'OVD. Il s'indigne de voir également que les immondices sont déversées dans plusieurs caniveaux déjà achevés. Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à l'OVD Kasaï Oriental.
Les caniveaux sont pour la plupart transformés en dépotoirs publics, donc ce sont des choses qui poser des conséquences sur la route, parce que ça c'est de un. Il y a la partie que nous appelons les trottoirs. Ça c'est fait spécifiquement pour les piétons. Alors quand quelqu'un prend les roues, il met sur les trottoirs, donc c'est déjà un abus.
Contactés, certains chefs de quartier reconnaissent cette pratique qui s'installe de plus en plus sur la ville. Nico Kassanda dit avoir fait plusieurs sensibilisations auprès de ses administrés.
Les mamans qui balayent dans leurs parcelles, ils mettent les immondices dans les canals. Nous leur avons déjà produit des conseils partout. On parlait même avec Mégafo. Les gens ne comprennent presque pas. Il y a toujours la malpropriété partout.
Signalons que certains habitants ont aussi dénoncé la mauvaise utilisation des nouvelles routes par les motocyclistes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en RDC, désormais toutes les entreprises qui s'hasarderont à éliminer les archives du pays sans passer par l'Institut national des archives du Congo, INACO, s'exposeront à des peines prévues par la loi, mesure prise par cette institution par le biais de son directeur général dans le cadre de la Journée internationale des archives célébrée le 8 juin de chaque année. Pour cette année, le thème national choisi est cyberarchives. Le thème international cyberarchives et le thème national, les archives en RDC à l'ère du numérique. On écoute à ce sujet le professeur Aimé Kasongo, directeur de l'Institut national des archives du Congo. Il est au micro de Étienne Lissumbu.
La destruction ou l'élimination des archives est un fait normal. Quand vous avez gardé des archives pendant des longues années, à un certain moment, il y a nécessité d'éliminer. Mais pour éliminer, il faut passer par l'INACO, c'est l'INACO qui donne l'aval. C'est-à-dire l'INACO envoie des inspecteurs pour faire un état des lieux. Vous faites un état des lieux et on établit le bordereau qui reprend, qui répertorie les archives ciblées pour la destruction. Ça a été produit par qui? Ça vient de quel service? Ça fait quel nombre d'années? Et toutes ces conditions-là, si elles sont remplies, et la direction générale accorde son aval pour la destruction et l'accompagnement technique, parce que nous devons accompagner techniquement ces processus-là jusqu'à l'élimination physique. Mais il y a beaucoup d'autres entreprises, d'ailleurs c'est les trois quarts se livrent à cet exercice malheureux d'éliminer les archives, de détruire les archives, d'en passer par l'INACO. Il y a effectivement des peines qui sont prévues par les textes fondateurs de notre institution. Nous avons tout un arsenal juridique et parmi ces textes de loi, il y en a qui prévoient des sanctions. Des sanctions, si nous tombons sur ce cas-là, il y a des sanctions.
Et à la question de savoir si aujourd'hui on peut retrouver facilement toutes les archives du pays à l'INACO, le directeur général reconnaît que son institution rencontre des difficultés dans la conservation des archives.
Actualité internationale.
Nous sommes en République centrafricaine. Le pays fait face depuis 3 semaines à une pénurie de carburant. À Bangui, la capitale, la plupart des stations-service sont fermées, rendant impossible l'accès aux produits pétroliers. Dans ce contexte où il est difficile pour les opérateurs économiques et les usagers de s'en procurer, et certains revendeurs s'approvisionnent à Zongo, une ville de la RDC située en face de Bangui, de l'autre côté de la rive.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Stéphane Banza, représentant de l'ONG Action pour la protection de la nature et des peuples autochtones du Katanga. Il nous parle des avantages pour les peuples autochtones du projet dénommé Restauration des écosystèmes dégradés dans les provinces du Kwango, au Katanga et Lualaba. Un projet financé entre autres par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Stéphane Banza s'entretient avec Paul Matendo Mayamba.
Stéphane Banza, bonjour.
Bonjour, monsieur Paul.
Vous venez de participer à ces assises sur la restauration des écosystèmes dégradés dans le Kwango, au Katanga et Lualaba. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces travaux?
Ce que j'ai retenu de cet atelier, d'abord on est venu pour apporter les amendements. Pour enrichir le document qui a été déjà travaillé après les consultations qui ont été organisées dans les provinces respectives. Et les amendements ont été apportés en termes d'indicateurs, en termes d'activités et en termes de certaines stratégies. Ça, ce sont les principaux amendements que nous avons eu à faire pendant les 2 jours. Et ce qui a fait que les activités soient menées, des discussions en 3 sous-groupes, selon les composantes, parce que le projet réside sur les 3 composantes. Dont la première, c'est sur la gouvernance, les politiques et la gouvernance forestière. La deuxième composante va parler sur la restauration des écosystèmes. Et là-dedans, ce sont les activités d'identification des sites dégradés. C'est notamment faire de la cartographie de ces sites. C'est aussi toutes les activités liées à la restauration, comme le reboisement, les pratiques agricoles durables. Et la troisième composante, c'est le suivi et évaluation, les bonnes pratiques.
Il est dit que ce projet vise également l'amélioration des conditions de vie de peuples autochtones. Quel est exactement leur intérêt?
Les peuples autochtones, par rapport à ce projet, c'est beaucoup plus lié aux connaissances des pratiques. Vous n'êtes pas sans ignorer, peut-être je vous informe, que ce sont les peuples autochtones qui sont les meilleurs gardiens des forêts. Ils ont beaucoup de techniques et de pratiques que les autres structures doivent apprendre. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez dans un village où il y a les peuples autochtones pygmées et un village habité par les communautés locales, il y a une distinction nette. Laquelle distinction? Déjà, dans le village, dans le campement des peuples autochtones pygmées, ils vivent avec la forêt. La forêt, c'est pour les peuples autochtones pygmées un lieu de loisirs, un lieu de rites, un lieu sacré, et parfois ils disent même dans la forêt qu'il y a leur dieu. C'est la médecine pour les peuples autochtones pygmées. Je vous informe que dans les peuples autochtones, on ne traite pas la sinusite 2-3 jours. C'est en une journée, on finit la sinusite. Donc, on doit apprendre de toutes ces pratiques-là pour que nous puissions bien conserver. Et chez les peuples autochtones pygmées, vous n'allez pas trouver une déforestation comme nous vivons chez les communautés locales. Là, parce que d'abord, ils ne font pas des grands champs. Ils font des petits champs, ne fût-ce que pour la subsistance. Voilà l'intérêt que nous devons accorder à cette catégorie de communautés locales qui se retrouvent dans notre pays. Nous avons la technologie appropriée, ensemble avec les peuples autochtones, pour les former en tant que pépiniéristes.
Vous dites que vous avez la technologie appropriée. Est-ce que vous en avez le moyen?
Le moyen, comme on a déjà un projet, c'est déjà le moyen. Parce que le projet prévoit le reboisement. Et le reboisement ne peut jamais se faire sans la mise en place des pépinières. Ça ne suffit pas, mais nous avons besoin que les autres bailleurs qui écoutent ces échos puissent nous soutenir.
Vous rentrez au Katanga, quel est le message que vous apportez aux peuples autochtones?
Nous avons 2 messages. Le premier message concerne les communautés locales ayant bénéficié du projet Miombo, dont on a mis en place les CFCL, les concessions forestières des communautés locales. Il y en a 20 qui ont déjà eu leurs arrêtés, c'est ça la loi. Nous disons à ces communautés-là organisées en concession forestière de communautés locales que ce projet qui arrive va prendre aussi beaucoup de points. Là où il y a eu des concessions forestières de communautés locales sans arrêter, je crois que ça sera les activités premières pour que l'autorité puisse signer, nous allons accompagner les initiatives des forestiers communautaires à voir effectivement les arrêtés. Mais du côté pygmée, ce projet, nous allons l'amener dans leur milieu pour que les communautés autochtones pygmées s'organisent, acceptent aussi dans leur milieu de vie pour recevoir et bénéficier de toutes ces pratiques durables, la connaissance de leur manière de gérer les forêts et aussi implémenter le projet dans leur milieu de vie.
Stéphane Banza, merci.
C'est moi qui te remercie, M. Paul.
Le représentant de l'ONG Action pour la protection de la nature et des peuples autochtones du Katanga répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. Par ici, prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotati-Vueta, supervision de Martin Sebou-Jangwe à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.